Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Dernier épisode de la story avant 2022. On termine l'année en rose et en paillettes. Je vais vous raconter l'histoire d'une Cendrillon devenue reine de la pop, une princesse sans petit pois qui finit dans une cage dorée. On l'a enfermée pour la protéger, dit l'ogre, parce qu'il y a un ogre. Et un trésor aussi, bien sûr, un gros trésor. Mais c'est un conte du 21e siècle, parce qu'à la fin, ce sont les fans et les réseaux sociaux qui la délivrent.
It's Britney, bitch.
Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et pour clore la série sur les personnalités de l'année 2021, on ne pouvait pas ne pas parler de la libération de Britney Spears grâce à une mobilisation sans précédent.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you, Britney Spears. Elle a eu 40 ans le 2 décembre, mais elle a déjà une longue carrière derrière elle. 3 décennies de chant et de danse en body, des pas réglés comme du papier à musique, une fortune considérable et une vie grillée sous les flashs des paparazzi. Jusqu'à ce qu'elle soit mise, entre parenthèses, il y a 13 ans, la justice décide de refaire de Britney la mineure d'un père qui décide de tout pour elle, vraiment de tout. Alors maintenant que la tutelle de Britney Spears a été levée, j'ai demandé à Cécilia Delporte, journaliste aux Échos Weekend, si on pouvait dire que pour la star, 2021 était la première année du reste de sa vie.
Tout à fait, et elle le dit elle-même, hein. Sa vie a pris désormais une toute autre direction. Alors il faut dire que ça faisait 13 ans que Britney Spears, elle était sous la tutelle de son père, Jamie Spears, ça a été très médiatisé. Et donc celle-ci, en fait, elle demandait depuis 13 ans de pouvoir reprendre le contrôle sur sa vie personnelle, sur sa carrière. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est chose faite, hein. Elle est libérée de cette tutelle. Et comme le dit son avocat, ce qui attend Britney aujourd'hui, c'est la première fois qu'on peut dire ça depuis une décennie, c'est qu'elle ne dépend que d'une seule personne, elle-même.
Donc voilà la petite reine de la pop, libérée, délivrée et toujours fortunée. Mais Cécilia, qui est Britney Spears ? D'où vient-elle ? Et comment est-elle arrivée au sommet ? C'est une enfant de la balle ?
Pas du tout. Enfin, en tout cas, sa famille n'est pas du tout dans la musique. Britney Spears, pour rappeler un petit peu son histoire, elle est née le 2 décembre 1981. Elle vit durant son enfance dans la petite ville de Kentwood, c'est en Louisiane. Et c'est vraiment une bourgade qui est très tranquille, au milieu de la nature, où habitent beaucoup de protestants rigoristes. Et donc sa famille, comme je disais, elle n'y est pas du tout dans la musique. Sa mère, elle était un temps institutrice. Son père, lui, faisait des petits boulots de cuisinier ou d'ouvrier dans le bâtiment. Mais très vite, Britney Spears, elle va s'intéresser au chant. Elle va donner de la voix, notamment pour la chorale de son église. Et très vite, elle va devenir vraiment la petite star de la région. C'est une fille qui est assez positive, qui a vraiment une aura, un charisme que tout le monde remarque à l'époque. Tout commence en fait lorsqu'elle suit des cours de danse et de comédie à New York. Ses parents vont lui donner sa chance en quelque sorte, ils vont lui permettre d'aller à New York. Ça va être un investissement financier pour eux, mais ils croient beaucoup en son potentiel et donc elle se lance un petit peu à Broadway et elle tente sa chance à 11 ans. Au sein du programme Disney Mickey Mouse Club.
Ah oui, le fameux Mickey Mouse Club, dont sont sorties quelques stars qui tournent toujours actuellement. Comment ça se fait d'ailleurs, Cécilia ? C'était quel genre d'école, ce Mickey Mouse Club ? Et Britney Spears là-dedans, comment a-t-elle tiré son épingle du jeu ? Et aux côtés de qui ?
Sur les bancs, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de futures stars. Alors, cette école, en fait, c'est tout simplement une émission qui avait été lancée au départ dans les années 1950. Ça a été réadapté dans les années 70, ensuite dans les années 90. Et c'était vraiment une émission de variété, en fait, à destination des enfants, avec des séquences musicales, des représentations, des reprises de chansons célèbres. Donc, on était à la fois sur du chant, de la danse, une certaine part de théâtralité aussi. Et Britney Spears, c'était déjà la star toute trouvée, hein. Elle incarnait déjà l'image de la jeune fiancée de l'Amérique. Et elle se distinguait déjà par rapport à Christina Aguilera, Ryan Gosling ou même Justin Timberlake.
On vient d'entendre en duo les graines de star Britney et Justin, alors respectivement Spears et Timberlake, en 1992, dans une reprise un peu annonciatrice du futur couple qu'ils vont former à la ville, après avoir été un couple d'enfants stars à la scène. Ils ont une douzaine d'années et déjà le chaud dans la peau. Mais du numéro attendrissant à la carrière d'adulte, le passage est quelquefois périlleux. Quelles vont être les clés du succès de Britney ?
En fait, à la suite du Mickey Mouse Club, parce que donc c'est pas éternel, hein, ça dure que quelques mois. Et donc là, en fait, elle va collaborer avec le célèbre producteur suédois Max Martin. Il va lui composer vraiment un tube en puissance. Tout le monde le connaît, c'est Baby One More Time. Quand ça sort, c'est un véritable raz-de-marée dans les classements mondiaux. Et il faut vraiment se remettre dans l'époque, hein, parce que Britney Spears, elle devient un phénomène comme on a rarement vu l'industrie de la musique. C'est alors la mode des boys bands et elle parvient à fédérer à elle toute seule un jeune public. Elle a un style très léger, enfantin, mais un peu dans la provocation. On va se souvenir notamment de sa tenue d'écolière hein, qu'elle arbore dans le clip de Baby One More Time qui fera polémique dans les milieux conservateurs. En tout cas, c'est un véritable triomphe pour elle. Son album il s'écoule à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Elle a tout juste 17 ans. Elle est adulée par la jeune génération. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, on voit que son père commence déjà à se montrer très intéressé hein, par le côté pécunier de l'affaire. Elle venait tout juste de signer avec sa maison de disques. Et déjà, il disait, elle va un jour être si riche qu'elle m'achètera un bateau. C'était une de ses premières phrases. C'est dans le documentaire sur Netflix, une personne de la maison de disques qui s'en souvient. Et donc, ça donne déjà un petit peu les clés hein, sur ce qui se tramait à l'époque. Donc, Britney Spears, elle est vraiment en pleine apogée. Et puis déjà, il y a l'aspect financier hein, qui travaille déjà son père à l'époque.
Et c'est là que Britney devient une star et pour ses parents un ticket pour une vie meilleure. Est-ce que c'est le début d'une relation toxique ?
Au début, tout va bien, on va dire. Ça s'est fait progressivement. Donc ses débuts sont plutôt heureux. Donc comme je le disais, il y a le succès énorme de Baby One More Time, mais les tubes s'enchaînent. Il y a les albums Oops I Did It Again. Il y a l'album Britney qui suit. Elle se lance même dans le cinéma avec le film Crossroads. Elle chante aux côtés de Michael Jackson. Elle est classée un temps par Forbes comme l'une des célébrités les plus influentes du monde. Donc tout va bien de ce côté-là. Petit à petit, elle va commencer à arborer une image un peu plus sexy. On se souvient de son baiser langoureux avec Madonna au MTV Music Awards. Et puis elle a envie de s'émanciper de l'image hein, de jeune fille sage. On voit que ça la travaille véritablement. Alors ses parents, ils sont très présents, mais la situation n'est pas encore critique. En tout cas, tout va bien pour le moment.
Mais l'embellie ne va pas durer parce que assez vite, ça déraille. Pourquoi ?
Et oui, ça déraille. Donc peu à peu, en fait, elle va perdre le contrôle de son image et de sa vie. Alors vraiment, il faut revisionner les images de l'époque, hein, mais elle était vraiment assaillie par les paparazzi. Hein. C'était vraiment, au départ, elle était en plus assez conciliante, donc du coup, il se permettait beaucoup de choses. Très vite, elle s'est laissée en fait submerger hein, par cette intrusion dans sa vie privée. Donc à l'époque, elle n'est pas encore sous tutelle, bien sûr, mais toute sa vie, elle est scrutée, contrôlée par ses proches. Là, tout va s'accélérer. Hein. Elle subit une rupture amoureuse douloureuse avec Justin Timberlake. Tout le monde lui reproche une hypothétique infidélité, donc tout le monde rejette la faute sur elle. Elle va alors se marier pour une durée de 55 heures avec un ami d'enfance. Ensuite, elle va divorcer. Elle va rencontrer son second époux, donc c'est le danseur Kevin Federline. Elle va lancer une télé-réalité autour de son couple. Elle va à nouveau divorcer. Elle enchaîne les soirées arrosées avec Paris Hilton et Lindsay Lohan. Elle rentre en cure de désintoxication et elle perd la garde partagée de ses enfants. Alors comme ça, on voit que c'est un tableau assez noir. Et en 2007, le monde entier va assister à une image qui va devenir tristement célèbre. C'est Britney Spears qui est filmée en train de se raser le crâne sous le flash des paparazzi. Cette image, elle va vraiment faire le tour du monde. Et au fond, en fait, elle explique qu'elle en avait marre d'être tout le temps suivie, de cette pression médiatique, de cet environnement qui était très misogyne hein, à son égard. Et par ce geste, elle avait envie aussi qu'on la laisse tranquille, de casser cette image de jeune fille sage dans laquelle tout le monde avait souhaité l'enfermer.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'a pas su mettre de barrière entre le public et le privé ? Est-ce qu'elle s'y est mal pris ?
Il y avait une certaine innocence hein, quand elle a commencé. C'est vrai qu'elle a commencé très jeune, à 17 ans. Du coup, elle s'est penchée beaucoup sur sa vie privée. C'est vrai que sa relation avec Justin Timberlake a été très médiatisée. Et puis, elle était sans doute aussi mal entourée. Hein. Les gens n'ont pas vraiment su bien la conseiller. Donc, c'est vrai qu'au départ, et ça, c'est ce qu'on voit très bien dans le documentaire du New York Times, c'est qu'au départ, elle était très conciliante avec les paparazzi, vraiment très souriante, elle s'en donnait à cœur joie. Et en fait, petit à petit, elle s'est rendue compte que c'était finalement très malsain, enfin qu'elle perdait totalement le contrôle sur son image. Et puis, quand les choses ont commencé à être plus compliquées pour elle, d'un point de vue personnel, ils lui ont rien épargné. Et justement, hein, le fait qu'elle se rase le crâne, ça a été vraiment, on va dire, comme un cri de colère hein, vis-à-vis à la fois des paparazzi qui la suivaient, de l'image dans laquelle on l'avait enfermée. Elle voulait vraiment dire « laissez-moi tranquille ». Et c'est vrai que Britney Spears, pour le coup, ça a été vraiment un petit peu au départ un cas d'école hein, vis-à-vis de cet harcèlement des paparazzi. C'était la première fois qu'une star était aussi épiée, aussi critiquée. Ça a été très dur et on se souvient qu'elle était aussi jeune à l'époque. Donc, ça explique aussi en partie hein, sa descente aux enfers.
Alors, on a un aperçu dans la vidéo que l'on vient d'entendre de la pression que lui font subir les paparazzi. Ils sont tellement à entourer sa voiture qu'elle ne peut plus avancer. Et quand elle essaie, elle roule sur le pied de l'un d'eux, qui lui hurle dessus. C'est assez terrifiant. Mais Cécilia, de là où on arrivait à la tutelle, qui n'est quand même pas une procédure neutre, quel va être l'enchaînement et que sera sa vie à partir de ce moment-là?
Petit à petit, là, sa santé mentale, elle est de plus en plus fragile. En tout cas, elle est jugée fragile par ses proches. Hein. C'est en tout cas ce qui ressort de cette situation. Donc, Britney Spears, elle est conduite en hôpital psychiatrique. Et son entourage, il estime, en fait, à l'époque, elle est plus capable de prendre ses propres décisions. Et donc, il obtient une mise sous tutelle. Alors, dès le départ, Britney Spears, elle sait qu'elle pourra pas échapper hein, à cette tutelle temporaire, qui est censée être temporaire hein, au départ. Hein. Mais elle a une seule requête, que son père, du coup, Jamie Spears, ne soit pas son tuteur. Donc, dès le départ, en fait, elle veut vraiment l'éloigner de cette tutelle-là. Ils ont jamais été proches. Lui, il a eu une vie tourmentée. Il a souffert d'alcoolisme. Et comme je le disais plus tôt, il a toujours été intéressé par l'aspect financier de la carrière de sa fille. Mais la justice, elle en décide autrement. Et donc, à partir de 2008, c'est désormais son père qui gère tous les aspects de sa vie. Alors, elle le confie déjà dans un documentaire de l'époque. Elle explique, je vous le cite, « Lorsque vous êtes en prison, vous savez que vous allez sortir un jour. Mais dans mon cas, il n'y a pas de fin. » Donc, on voit que c'est déjà un constat assez tragique. Et donc, en fait, on va apprendre plus tard les conditions de cette tutelle jugée abusive dans la bouche de Britney Spears. Donc, elle explique comment elle a dû prendre des médicaments de force pendant des années qui l'ont fait se sentir déconnectée de la réalité. Elle n'avait plus aucune liberté de décision concernant ses amitiés, ses relations personnelles, sa fortune. Fait encore plus étonnant, elle n'avait pas la possibilité notamment de retirer son implant contraceptif alors qu'elle souhaitait avoir des enfants. Et donc, elle estime en fait que la tutelle, c'est vraiment devenu un outil d'oppression, de contrôle à son encontre. Et que si son entourage en fait estime réellement qu'elle souffre de démence et de problèmes psychiques, s'ils veulent vraiment en fait son bien-être, pourquoi ils l'obligent à sortir des albums, à être en tournée, à être jurée dans une émission de télévision, si ce n'est pour lui soutirer en fait sa fortune personnelle? Si elle est vraiment si malade telle qu'ils la décrivent, pourquoi continue-t-il justement à la mettre au premier plan sur des émissions de télévision, dans des tournées? Voilà, elle trouve que c'est assez hypocrite. Et moi-même, pour l'avoir vue justement en concert à cette époque, on sentait vraiment qu'il n'y avait aucune passion, aucune volonté d'être sur scène pour elle. Elle était très passive, en fait, face à ce qui se déroulait, un petit peu comme un robot.
Mais un robot qui fait du cash, c'est ça?
Effectivement, oui, c'est une machine à cash. Et d'ailleurs, son père explique qu'il a créé une sorte d'entreprise hybride, en fait, à partir de la tutelle. Donc, ça veut dire qu'il il utilise la tutelle, en fait, finalement, pour faire fructifier, en fait, la fortune de sa fille, tout en prenant une commission.
Parce que oui, venons-en aux chiffres. Malgré les montagnes russes de sa carrière et de sa vie personnelle, ces dernières années, Britney Spears est-elle toujours riche? Et quels intérêts son père a-t-il pu tirer de la tutelle de sa fille?
Aujourd'hui, sa fortune, selon Forbes, s'élève à 60 millions de dollars. C'est beaucoup, mais en même temps plutôt bas, hein, si on compare avec d'autres stars de la pop comme Beyoncé ou Rihanna. Pourquoi? Parce qu'elle a payé des millions de dollars de frais juridiques qui sont liés à sa tutelle. Alors, ce qu'elle a dû verser à son père, c'est énorme. Même s'il n'y a pas de chiffre global, on peut notamment noter qu'il a reçu une partie des revenus de ses tournées avec 1,5% des ventes brutes de billets et de produits dérivés de sa résidence à Vegas. Elle lui verse aussi un salaire mensuel de 16 000 dollars par mois. Elle lui payait son bureau et elle a dû payer à la fois son avocat et celui de son père comme elle était sous tutelle. Donc en gros, elle s'est appauvrie, tandis que lui, il s'est enrichi. En parallèle, elle verse aussi une pension alimentaire à son ex-mari Kevin Federline. Elle a cessé de faire des publicités télévisées, elle n'a plus de sponsor. Son dernier album, il est sorti en 2016, et sa dernière tournée, elle remonte à 2018. Elle a aussi annulé une résidence à Las Vegas, hein, qui lui aurait permis de gagner minimum 350 000 dollars par soir. Donc si elle part aujourd'hui avec un bon capital, elle a aussi beaucoup perdu durant ces dernières années.
Alors, le côté scandaleux de la situation va commencer à toucher le grand public. Après avoir brûlé la star Britney en se repaissant de ses frasques dans les magazines People, l'opinion va fléchir en sa faveur jusqu'à se structurer en véritable mouvement pour sa libération. Cécilia, comment ça s'est fait? Et est-ce un cas d'école ?
Il y a toujours eu des mouvements de soutien de fans envers leurs artistes. Mais c'est vrai que le mouvement Free Britney, il a été très particulier par son intensité, par l'impact médiatique, par la longévité. Et en fait, on a l'impression que ça a commencé l'année dernière, mais il a commencé il y a 10 ans environ, en 2009. Donc un an après sa mise sous tutelle. En fait, là, une partie de son public s'insurgeait déjà contre la radicalité des conditions juridiques. Et donc, comme je le disais auparavant, en fait, tous se posaient la question suivante. Si Britney Spears, elle est incapable de gérer ses finances ou ses besoins personnels, en fait, pourquoi elle continue de partir en tournée mondiale? Et donc, petit à petit, ses fans, ils vont découvrir que chacun de ses faits et gestes sont consignés dans des documents judiciaires, qu'elle n'est libre de rien, comme acheter une boisson dans un magasin. Elles peuvent pas faire le moindre achat, même anecdotique, sans devoir appeler son père. Et donc, ils vont se mobiliser sur les réseaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent percevoir des messages subliminaux que leur enverrait Britney Spears, en fait, via ses posts Instagram. Et donc, il y a le documentaire ensuite Framing Britney du New York Times qui va tout accélérer. Et des fans vont récupérer le témoignage d'un assistant juridique qui dévoile un petit peu les coulisses abusives de cette tutelle, même si la véracité, en fait, du contenu n'a jamais été vérifiée. Ça va mettre vraiment la puce à l'oreille aux fans et ça va leur donner envie de se battre encore davantage.
Et sur le terrain juridique, comment cela va-t-il faire évoluer les choses ?
Le problème de Britney Spears à cette époque, c'est qu'en fait, elle peut pas embaucher son propre avocat, l'avocat de son choix, sans l'accord de ses tuteurs. Donc, on comprend un petit peu que ça complique toute procédure judiciaire en sa faveur. Bon, Britney Spears, elle abandonne rien. En fait, elle souhaite que soit nommé, donc à la place de son père, un tuteur professionnel pour l'épauler. Donc, en gros, elle voulait confier à une banque l'administration de ses biens. Et c'était, selon elle, un bon compromis si jamais on devait garder la tutelle, voilà, pour éloigner en tout cas son père. Donc, c'est ce qu'elle demandait depuis le début. Et c'est vrai que, voilà, comme je disais, le documentaire va vraiment mettre les gens de son côté. On va vraiment comprendre la réalité de ce que subit Britney Spears. Et donc là, ça va aussi faire changer et accélérer les choses du côté judiciaire. Elle va enfin avoir son propre avocat, ce qu'elle demandait depuis 13 années. Et sous la pression médiatique, en fait, son père, il va finir par accepter parce que la charge devient trop lourde. Et puis, c'était vraiment, il y avait des articles sans cesse dessus. Il y a eu le documentaire aussi sur Netflix qui est sorti quelques mois après celui du New York Times. Donc, son père a fini par accepter. Et c'est comme ça que Britney Spears a pu s'émanciper de cette tutelle.
Et c'est une audience au tribunal de Los Angeles en juin qui va faire tout basculer. Parce que Cecilia, déjà, elle y obtient d'avoir la parole pour la première fois depuis 13 ans. C'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, Britney Spears, elle va prendre la parole. Elle avait été silencieuse jusqu'ici. Elle va prendre la parole et en fait, elle va expliquer vraiment les conditions de cette tutelle. Elle va s'exprimer pendant 20 minutes sans s'arrêter. On sent que c'est quelque chose vraiment qu'elle voulait dire depuis des années, mais qu'elle ne pouvait pas. Et donc, elle va revenir un petit peu sur tous les points qu'on a abordés précédemment. C'est un discours qui est très dur envers sa famille et vraiment qui va permettre en fait de comprendre l'enfer qu'elle vivait, parce que c'est ce qu'elle dit, hein, qu'elle vivait un véritable enfer. Et c'est vrai que dans ses mots, dans sa bouche, du coup, ça prend une résonance toute particulière, parce que jusqu'ici, vu qu'elle était silencieuse, en fait, il n'y avait que des supputations. Et puis, les fans pensaient interpréter... Voilà, comme je disais sur Instagram, quelques appels à l'aide, mais en fait, il n'y avait rien de concret. Et là, le fait qu'elle prenne enfin la parole, ça a permis aussi d'accélérer cette procédure et puis surtout, vraiment, de mettre l'opinion publique de son côté.
C'est officiel, la tutelle de Britney Spears est levée.
Explosion de joie devant le tribunal californien qui a mis fin définitivement à la tutelle qui pesait sur la chanteuse américaine. La star a immédiatement remercié ses soutiens.
Mon Dieu, j'aime tellement mes fans que c'en est dingue. Je crois que je vais pleurer toute la journée.
Et pour son père, ça a quelles conséquences ? Est-ce que l'heure des comptes a sonné ? Et est-ce que c'est la chute pour lui ?
Bah, aujourd'hui, finalement, alors, il a touché quand même beaucoup d'argent pendant des années. Donc là, il touchera plus d'argent de sa fille. Mais en tout cas, là, il peut vivre confortablement pendant des années et la génération suivante. Donc, bon, lui, il est assez à l'abri. Ce qui est intéressant, c'est que son père avait essayé par le passé, en fait, de créer plusieurs entreprises. Tout avait fait faillite. Enfin, c'est un très mauvais gestionnaire de base et qui s'est vraiment jamais épanoui, on va dire, professionnellement. Donc, pour lui, ça a été vraiment une manne financière incroyable. Et puis aujourd'hui, il est à l'abri. Même s'il touche plus l'argent de sa fille, il peut vivre confortablement jusqu'à la fin de sa vie.
Et pour Britney Spears, qui vient de fêter ses 40 ans, quels sont les projets pour cette première année du reste de sa vie, alors ?
Pour le moment, elle souhaite surtout se concentrer sur sa vie personnelle. Elle souhaite se marier avec son nouveau compagnon et fonder une famille. D'ailleurs, sa famille ne sera pas invitée à son mariage. Voilà, donc pour le moment, elle souhaite vraiment se concentrer sur sa vie personnelle, avoir des enfants. Et pour tout ce qui est artistique, pour le moment, ce n'est pas vraiment sa priorité.
Une prochaine étape, moins glamour, se profile. Elle pourrait ramener la famille Spears devant la justice afin que Britney puisse demander des comptes à papa. Certains estiment que la fortune de la chanteuse devrait s'élever à 350 millions de dollars plutôt qu'à 60 millions, comme c'est le cas aujourd'hui. Cecilia nous l'a dit, Daddy est un piètre gestionnaire. Il a à son palmarès quelques faillites. Nous verrons bien si devant les faits, il se contente de répondre. Merci à Cecilia Delporte, journaliste aux Echos Weekend, pour ce conte de fées pop. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan. On se donne rendez-vous en 2022, après une Saint-Sylvestre que je vous souhaite joyeuse et en musique. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, c'est chaque jour sur leséchos.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.